Actu SF, les podcasts.
Eh bien bonjour, nous entamons un marathon donc sur le transhumanisme. Il y aura un débat chaque jour, pas forcément sur la même scène, pas toujours aux mêmes horaires. À vous de suivre et de regarder. Pour aujourd'hui, nous ferons simplement une introduction au transhumanisme pour savoir ce que ça recouvre exactement. Demain, nous parlerons du transhumanisme au-delà du bien et du mal, n'est-ce pas ? C'est pour le mouvement transhumaniste qui se veut post-genriste. Ensuite, nous parlerons des nouveaux sens du transhumanisme, ce que l'on peut rajouter au corps par divers moyens. On parlera aussi le jour d'après des problèmes par rapport à l'humain. Ce sera un côté davantage sociologique, si l'on veut. Et puis ensuite, on parlera du futur du transhumanisme. Demain, le transhumanisme, ça sera pour la session de dimanche. Voilà, donc avec moi, j'ai Beb Dehomme, graphiste, illustrateur. Vous pouvez admirer ses œuvres exposées ici, qui est né à Fontenay-sous-Bois, qui est quand même un pool de graphistes, si on veut. Non, il y a Jean Giraud, qui est de Fontenay-sous-Bois aussi, Moebius, donc. Je crois que le choc, c'était justement le premier métal hurlant avec les dessins de Moebius. Beb Dehomme a fait des bandes dessinées dans Métal hurlant, parfois sur scénario de Jean-Pierre Dionnet. Et puis, petit à petit aussi, il s'est surtout mis dans l'illustration pour la presse, l'édition. Vous l'avez vu peut-être dans Télérama, Libération, et aussi pour la publicité avec Thierry Mugler, Coca-Cola, Sony, etc. Qui a aussi travaillé au Japon. Voilà. Ensuite, Jean-François Deleuze, qui donc est biologiste et généticien, spécialiste de la génomique humaine. Bon, ben, vous le savez, vous venez de l'entendre. Et puis, Xavier Mauméjean, qui donc est un écrivain qui aime bien le mélange des genres, qui parle beaucoup des monstres. Il y a Frix, il y a L'homme éléphant. Alors là aussi, c'est un mélange, puisque j'oublie le titre.
Mémoires de l'homme éléphant.
Les mémoires de l'homme éléphant, où l'on a un homme éléphant qui mène des enquêtes un peu à la manière de Sherlock Holmes. Voilà, et c'est un diplômé en philosophie des sciences et religion. Bien, et donc, pour parler du transhumanisme, qui est de plus en plus présent dans notre actualité, on peut se demander qu'est-ce que ça recouvre aujourd'hui ? Est-ce que c'est tout nouveau ? Ou alors, simplement, il y a un mouvement qui est en train de se créer grâce aux nouvelles technologies et à la biologie qui font que aujourd'hui ça devient une question centrale dans nos sociétés. Est-ce que quelqu'un peut dire quel est le mouvement transhumain aujourd'hui ?
Je pense que plus qu'un historique du transhumain, il faudrait se demander... Déjà, en quoi il y a une nouveauté dans le transhumain, dans le transhumanisme ? Déjà, le mot lui-même, historiquement, il n'est pas neutre. C'est Julian Huxley, biologiste, qui l'a forgé, qui était quand même contre son frère Aldous, très porté sur l'eugénisme, Julian. Donc le mot lui-même n'est pas neutre. Et puis, en fait... Il faudrait distinguer ce qui relève de la nouveauté technique, technologique, et de ce qui relève de l'éthique, de la morale du projet. Or, le projet n'a pas varié d'un cheveu depuis le début de l'humanité en Occident. C'est-à-dire que là aussi, le transhumanisme, c'est une éthique, une conduite, un comportement occidental. Quelle que soit sa réalisation dans le monde, il est teinté d'une vision de l'homme et du monde, de la culture, qui est typiquement occidentale. Et cette idée, en gros, c'est qu'il est dans la nature de l'être humain, de dépasser sa nature. C'est-à-dire que la nature de l'être humain serait d'être culturel, c'est-à-dire d'échapper à ce qui lui est immédiatement donné pour trouver, alors dans sa conscience, dans son âme, après dans son programme des définitions, ce qui serait son but. Un but qui ne serait pas imposé par la nature, mais un but qui se donne lui-même. Ça, on le trouve aussi bien chez Aristote que dans la Bible, puisque le devenir de l'être humain, le devenir historique, c'est dans le travail de dépassement, il dépasse sa nature première, l'être humain, que dans des résumés du XXe siècle. Je pense par exemple à Sir Lewis Mumford, qui est un grand philosophe anglais de la technique, qui résumait le projet humain en deux phrases. La première, c'est « l'être humain ne vit pas dans la nature, il y survit », ce qui donc ne pose pas la position de l'être humain comme d'autres vivants qui sont immédiatement adaptés au monde. Et l'autre phrase de Lewis Mumford, c'est « ce n'est pas l'homme qui s'adapte au monde, c'est le monde qui s'adapte à l'homme ». À partir de ces deux théories qui ne sont pas de Mumford, qui sont des résumés de l'approche occidentale de l'homme dans son rapport au milieu, ben on a le transhumain dès le début. Alors, elle est contestable et j'espère qu'on aura l'occasion de la contester.
Alors, bon, l'homme est un individu technologique. Peut-être dès le départ, à partir du moment où il s'empare d'un bâton ou d'une pierre, il se prolonge avec des outils. Est-ce qu'on peut dire à partir de là aussi que c'est une sorte de prolongation de l'évolution darwinienne ?
Alors, on est clairement plus dans l'évolution darwinienne, on est dans l'évolution culturelle. On est sorti effectivement de l'influence des forces de la nature sur l'évolution, on est effectivement sur l'influence de notre culture. Et je crois que c'était Denis Buicant qui appelait ça l'évolutique. Donc, on n'est plus dans l'évolution, c'est dans le rapport nature versus nurture. Là, on est vraiment en train d'influencer notre propre évolution et donc de l'amener hors des forces de la nature. Alors moi, dans ce débat, je serais plutôt le technicien génétique pour les questions qui vont concerner ce qu'on peut augmenter en termes de génétique, ce qu'on peut faire pour faire quelqu'un qui va être entre guillemets plus efficace. Je ne sais pas si c'est bien de dire efficace. Je pense à un travail récent qu'on nous a sollicité pour travailler sur le dopage génétique, pour donner un exemple justement simple et vraiment très précis, hein, sans parler de l'homme de Milan qui est déjà né aujourd'hui ou de la mort contre la mort. Oui, effectivement, il y a des perspectives technologiques aujourd'hui pour, encore une fois, modifier ce qui fait l'homme, hein, essentiellement son génome, pour effectivement lui, potentiellement, lui fournir... On peut imaginer des choses, hein, pour lui fournir des fonctions et le rendre plus compétitif. Je pense, et alors ça n'a pas été fait, mais enfin, en tout cas, c'est pas fait en France. Je pense que c'est peut-être faisable ailleurs. Je reprends l'exemple que je donnais d'ailleurs du CRISPR-Cas9. Hein. Si je suis capable d'aller modifier la synthèse d'érythropoïétine, donc de l'EPO, dans le foie de quelqu'un, je ne touche pas son sang, je ne touche pas sa ligne germinale. Hein. Je vais directement lui bidouiller pour qu'il fasse 10 fois plus de PO dans son foie qu'il faisait d'habitude. Je vais faire des Lance Armstrong par milliers. Donc je pourrais effectivement, avec de la génétique pas très compliquée, permettre à quelqu'un de synthétiser beaucoup plus de PO que ce qu'il ferait naturellement pour lui permettre de gravir des cols. Donc ça commence par des choses aussi bêtes que ça, entre guillemets, l'augmentation de la performance. Et on peut imaginer, sans peut-être l'aspect vertueux, philosophique de l'évolution de l'homme demain, des aspects beaucoup plus mercantiles, comme ceux-là. Ou alors des choses un tout petit peu plus... Je pense à ça, parce que je pense à l'image du sport, des handicapés qui n'ont pas de pied, que vous en avez tous vu, ces coureurs sud-africains qui, avec des espèces de lattes en ferraille, arrivent à courir le 100 mètres quasiment aussi vite que Usain Bolt, et donc avec un système prothétique. Donc évidemment aujourd'hui il y a on peut aller beaucoup beaucoup plus loin que ça, mais aujourd'hui on a déjà, sans même parler de l'intelligence artificielle et de la couche de neurones par-dessus le cerveau qui est plus compliqué, mais on a déjà la possibilité aujourd'hui soit de modifier le génome, soit sur des systèmes prothétiques effectivement d'avoir des humains plus performants.
Voilà, oui, donc on nous promet la longévité, l'immortalité peut-être, et une augmentation des sens par le biais du numérique et par le biais du biologique aussi, avoir des prothèses qui nous augmentent davantage. Ça commence par le soin, donc est-ce qu'on peut dire aussi que la recherche médicale serait dans une optique aujourd'hui transhumaniste, bien qu'involontairement ?
Alors, dans une optique transhumaniste, économiquement, non. C'est-à-dire, clairement, non. Parce que je pense que, quelque part, malheureusement, le couperet de l'économie tombe et que... il y a tellement de raisons d'imaginer que ce n'est pas aujourd'hui tellement viable dans la société dans laquelle on est que non. Par contre, qu'elle délivre des outils qui pourraient permettre de mener à ça, les organes de remplacement, effectivement, c'est éminemment transhumaniste dans le sens où... mais par contre, ça s'accompagnerait aussi d'un cortège de comportements très néfastes. C'est-à-dire, aujourd'hui, on dit ben, protégez vos organes, vous en avez qu'un. Si demain, on peut avoir des organes sur l'étagère qu'on aura peut-être un jour, ben, on va avoir des comportements, on va se fiche que quelque part, son organe dépérisse parce qu'on va le changer. Donc, enfin, c'est le revers de la médaille. Mais évidemment, là, tout le travail sur la médecine régénérative qui permet de... Alors aujourd'hui, on ne fait pas des cœurs. On n'a pas des cœurs sur des étagères pour le remplacer. Mais bientôt, pour certaines parties du corps, on peut imaginer des os synthétiques, etc., etc., pas forcément avec les mêmes fonctions. Oui, effectivement. Donc, pour ce qui aujourd'hui est développé pour des raisons médicales pourra demain être perverti, alors diverti, parce que je ne suis pas sûr que ça soit une perversion, et justement par rapport à des comportements que dire « je m'en fiche, je vais changer ».
Ben, quelle humanité ça nous dessine à partir de ce moment-là, lorsque l'humain se modifiera de toutes les manières possibles?
Ben, en fait, ça tient aussi beaucoup, par exemple, au terme anglais « enhancement », qui peut se traduire par « amélioration » ou « augmentation ». Et ce n'est pas simplement un choix de traduction, c'est un choix d'intention. Il y a deux traductions possibles. Soit quantitatif, vous augmentez, soit qualitatif, vous améliorez. Or, une approche qualitative, une approche quantitative, ce n'est pas du tout la même. Et le problème, c'est que c'est de savoir, il y a des tas de questions à se poser au fil de ces tables rondes, qui est de savoir quelle est, à aucun moment, on peut remettre en question la notion de progrès technique ou d'ingénierie. C'est l'intention et le choix et l'usage qu'on en fait qui pose problème. Or là, il y a quand même un changement dans la continuité avec le transhumain, qui est que jusqu'alors, dans l'intention de l'être humain, il y avait soit d'améliorer dans une ère stricte autour de lui ses capacités, une caméra c'est un œil, la main c'est le premier outil, etc., soit de faire des doubles. Et donc c'est le choix du robot anthropomorphe, qui est peut-être pas d'ailleurs une bonne idée, la notion de robot anthropomorphe, sauf pour des raisons comme au Japon, de soucis de l'autre, d'altruisme, etc. Mais il y a cette idée de soit de s'améliorer un peu, soit de créer des doubles. Or là, avec aussi une troisième chose qui est importante, qui est de se débarrasser de Dieu, de manière générale, le créateur. Or là, avec le transhumanisme, on renonce à tout ça. C'est peut-être bien, c'est peut-être mal, je ne sais pas, mais on a un changement d'optique, un changement d'intention. C'est-à-dire qu'il n'est plus question de double, puisque je me change moi, et il n'est plus question de Dieu, puisqu'il est question de l'être humain. Autrement dit, l'être humain renonce à ces deux champs d'investigation jusqu'alors, qui est que l'être humain se coupe de Dieu et l'être humain se coupe de l'homme. Et là, ça devient intéressant parce qu'on a un problème dont rien, moralement, éthiquement, ne nous préparait à la formulation même du problème.
Beb Deum, dans les illustrations, on a quelque chose qui évoque la démarche transhumaniste. On a des visages qui ont l'air d'être des humains transformés. On a parfois des scarifications ou des incrustations de nanotechnologie. Est-ce que cette démarche, elle s'est faite comment?
Elle n'est pas très réfléchie, elle est instinctive, c'est une vision d'artiste. Moi, j'ai aucun propos technique à donner parce que je ne connais pas énormément le transhumanisme. Simplement, ça m'intéresse parce que j'aime l'humain. J'aime l'humain, j'aime l'imaginer ce qu'il sera demain. Et donc, je suis parti là-dessus. Je suis parti du métissage, en fait, et en poussant tout ça plus loin, dans l'outrance, on arrive forcément au transhumanisme le plus débridé et le plus fou. Oui.
Oui, moi je pense aussi à, pour l'animal, je pensais à la vache qui a un hublot qui permet de voir dans son estomac et que l'on retrouve dans la théorie des dominos à l'intérieur d'un sous-marin, qui montre bien que bon ben on est en train d'observer, de se modifier et d'observer ce qui se passe à l'intérieur et de changer les choses à partir de là. Qu'est-ce que alors les mouvements actuels? Aujourd'hui, ça devient un petit peu une nébuleuse, mais nous avons surtout l'aspect Google, qui, eux, sont ouvertement transhumains, si l'on veut. Il y a le mouvement World Transhumanity Association, qui est devenu ensuite Humanity Plus, que l'on représente par un H+, c'est comme un arrobase, mais on enlève le A et puis on a le H à la place. Et donc, ce mouvement-là, est-ce qu'on peut dire, bon, on dépasse l'humain, mais est-ce qu'il est encore altruiste, est-ce qu'il pense encore à l'humain, ou il est uniquement ultralibéral ?
Bah, pour parler d'un point de vue strictement technique sur les mots, il ne peut pas être altruiste, parce que altruiste,
c'est ce qu'on nous
vend. Suppose un autre. Non, ça suppose un autre. C'est la racine même du mot. Or, dès lors que l'être humain se réinvente et se transforme continuellement, il n'y a pas d'autre. Il y a la répétition d'un, tout le temps modifié. Donc, par définition, le transhumanisme, il élimine l'altruisme. Ce qui ne veut pas dire qu'il élimine des notions aussi relatives que la bonté, la générosité, j'en sais rien, mais il ne peut pas, techniquement, être altruiste. Il ne peut pas y en avoir un autre, puisqu'il est tout le temps son propre autre.
Peut-être une petite parenthèse biologique, mais alors moi, encore une fois, je ne suis pas un expert et je ne suis pas forcément non plus un pro du transhumanisme. Je pense qu'il y a énormément de charlatanisme scientifique autour de tout ça. Donc, il faut faire très, très attention à ce qu'on lit. Bon, c'est un refus de la mort. La mort, c'est un programme biologique. On ne meurt pas par hasard, on ne meurt pas parce qu'on est vieux, on meurt parce qu'on n'est plus assez efficace, on meurt parce qu'on n'est plus capable d'être enfant, on meurt parce qu'on est programmé pour mourir et que c'est le darwinisme, c'est la biologie qui a fait ça et pour qu'on laisse la place dans un monde où les ressources sont limitées, aux gens qui peuvent se reproduire, faire des mutations, faire évoluer l'espèce. Donc la mort, c'est un programme naturel, c'est très désagréable, et moi le premier, je trouve ça désagréable, donc je le dis voilà, de façon biologique et pas de façon avec plaisir, mais donc on est programmé biologiquement pour mourir. Donc encore une fois, le transhumanisme, c'est le refus effectivement de la biologie pure, mais d'un autre côté, que l'homme se dise, bah, écoute, on ne va pas juste subir la biologie, on va la piloter, pourquoi pas, c'est quelque chose qui peut se discuter. Mais on parlait dans le topo précédent de se dire, ouais, l'accès à tout le monde, etc. Le transhumanisme, c'est bah, tout le monde va vivre bien, contrôlé, donc on est déjà 8 milliards, on va être 20 milliards, donc bon, c'est évidemment pas possible, il n'y a évidemment pas de ressources, ou alors on mange tous des cachets, ou alors on n'a plus d'estomac, donc en fait, on n'est plus les mêmes, quoi. Donc c'est pas juste la vision de ce qu'on est aujourd'hui en disant bon, on va vivre 4 fois plus, 5 fois plus, ou alors on va vivre 500 ans mais avec notre image de 30 ans, puis on va être tout ça, c'est totalement ridicule, illusoire, et c'est même pas réaliste une seconde. Donc c'est vrai que soit on le transpose dans une société dans 1000 ans qui a totalement changé par rapport à celle d'aujourd'hui, où on n'a pas les restrictions de territoire, d'alimentation, etc. Et dans ce cas-là, le débat est l'autre, mais l'accroissement de la population où tout le monde va bien et au final, d'abord tout le monde va bien, tout le monde n'ira pas bien, parce que ça sera forcément, si ça se passe, d'imiter, d'ailleurs on voit où ça se passe, hein, ça se passe effectivement que dans des pays très riches, hein, pas de transhumanisme en Afrique, hein, c'est la Californie où il y a tous les riches investisseurs des sociétés de biotech qui ont plus de milliards qu'ils pourront jamais en dépenser, donc forcément eux, ils voient la perspective de le dépenser plus longtemps. Mais c'est forcément ces gens-là, donc c'est encore une fois aujourd'hui, peut-être je me trompe un peu, mais c'est quand même pour protéger une élite. Plus qu'une vision, effectivement, pour apporter le bien-être à la population qui aura une croissance, ou alors on contrôlera la naissance, ou alors on sera tous ici transhumains, mais on arrête de faire naître. On arrête, on se fait tous stériliser, parce que dans ce cas-là, il y a un problème. Donc, ce que je trouve un tout petit peu dommage, c'est tout ce qu'il y a derrière le rideau, des implications que ça apporterait, qui n'est pas aussi sexy que de vivre plus longtemps en bonne santé, ça qui, a priori, va intéresser un peu tout le monde. Peut-être pas l'éternité, mais vivre mieux, plus longtemps en bonne santé, c'est un souhait général. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux qui ne sont pas présentés, et c'est dans tous ces textes, dans tout ce qu'on va lire de tous ces gens-là, et qui sont justement les vraies questions qui montrent qu'il y a énormément de charlatans et que ça n'a pas été vraiment très profondément analysé.
Moi, je pense que le transhumanisme, c'est le fruit du capitalisme débridé que l'on vit aujourd'hui. C'est le résultat, et qui nous mène où? Dans le mur, en fait. Je ne comprends même pas pourquoi on parle de ça, alors qu'on devrait s'occuper des vrais problèmes, qui sont comment on va se sortir dans la merde où on est aujourd'hui, et pas sauver les 1% qui nous gouvernent et qui nous mènent dans le gouffre, en fait. Voilà.
Il semble que tout ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il faut revenir un petit peu à une certaine naïveté qui est que le résultat de la transformation par l'être humain, on la connaît, il suffit de regarder, le monde est transformé par l'être humain. Avant de tenter une nouvelle approche qui serait de cette fois-ci transformer l'être humain par l'être humain, ben, il faut voir qu'effectivement, ça peut paraître très naïf, mais qu'il y a des quantités d'êtres humains qui meurent, que le monde est merdique, cette transformation, elle est peut-être à éviter pour essayer de réparer un peu, effectivement. Et tout à l'heure, on parlait de vos créations. Moi, je les connais depuis toujours, je les adore. Mais moi, ce qui m'apparaît dans toutes ces magnifiques images, c'est l'amour de l'être humain. Justement, il y a toujours un être humain en dessous. Il y a des enjolivements, une beauté. Moi, je me rappelle les couvertures magnifiques de Métal Hurlant. Mais qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qui ressortait au final? C'était un être humain et un amour de cet être humain. Là, il n'en est jamais question, cet amour d'être humain.
Oui, on est uniquement dans la technoscience. Voilà. Alors, peut-être que tout ce mouvement-là se développe simplement parce que c'est possible. Ce n'est pas avec un projet au départ d'améliorer l'humain, mais c'est-à-dire nous avons les moyens de le faire, donc allons-y, explorons. Et en disant que ça aussi, ça fait partie de l'humain. C'est le désir, la curiosité qui vont toujours nous pousser vers l'avant.
Oui, j'aime bien, moi, l'idée, effectivement, que c'est probablement une dérive. Encore une fois, je ne suis pas politisé, donc j'aime bien dire que je vais dire que c'est une dérive capitaliste, comme ça on a l'impression que je le suis, mais c'est vrai. C'est peut-être même un dérivatif, de dire, voilà, c'est amusant, c'est fun pour certains. Mais encore une fois, c'est une société transhumaniste agréable, c'est une société où tout le monde est transhumain. Parce que si tout le monde n'est pas transhumain, bah, évidemment, on a une élite. Et puis on a des mecs qui bossent pour cette élite, donc c'est encore pire que ce qu'on a aujourd'hui. Quoi. On a déjà cette segmentation, même au niveau national, international, pour là qu'elle soit un peu pire. Donc verser dans ce truc-là, parce que c'est évidemment là que ça va aller. Donc et si on est tous transhumains, bah alors c'est une société totalement aseptisée. Ou alors on est tous pareils, on a tous la même vie, forcément on va tous se ressembler. Ou alors on va tous vouloir avoir les mêmes types de capacités, alors qu'en fait, ce qui fait la richesse, en tout cas, moi, comme je le vois, et encore une fois, je me trompe peut-être, c'est la diversité qu'on a. Je pense qu'on a du mal aujourd'hui déjà à accepter. Quelles que soient les maladies qu'on regarde, on est tous dans une gaussienne. Hein. Alors on est content qu'on est au milieu de la courbe. La gaussienne, c'est la fameuse courbe en cloche que tous ceux qui ont fait un peu de maths et statistiques, donc ce qu'on appelle la distribution normale. La plupart, effectivement, des facteurs biologiques, biochimiques que vous regardez, quand vous regardez, vous les mesurez dans la population, vous les rapportez sur une courbe, ça fait une cloche. Quand vous tassez le milieu de la cloche, c'est en gros 90% des gens sont là. Et puis il y a 10% dans les extrêmes. Si on fait la taille, le poids, les maladies, on va trouver ça. Et le monde aime bien le milieu. Les extrêmes, on a tendance à penser que c'est des déviants. Les malades, voilà, les handicapés, on n'aime pas trop. Mais pourtant, c'est juste des gens de la même distribution de notre population qu'on n'accepte pas. Donc on n'accepte pas aujourd'hui les handicapés et on veut faire de la normale des transhumains. Donc c'est philosophiquement et intellectuellement, moi ça me dérange vraiment énormément. Et voilà, et encore une fois, et je pense que c'est juste un élément pour développer des segmentations et des différences dans la population qui est dramatique. Quoi.
Il se peut que tout le monde ne bénéficiera pas des mêmes changements. Il peut y avoir des augmentations qui sont faites selon les individus ou, disons, les classes sociales. On aura peut-être envie de donner à un travailleur les capacités d'être plus efficace, d'être plus costaud, ce qui ne sera pas la transformation accordée à quelqu'un qui a une autre activité.
Si c'est au bénéfice de l'employeur pour qu'il soit plus productif, c'est pas cool. Voilà. Hein, c'est,
Puis surtout, avant d'en arriver à la conscience collective dans un ailleurs indéterminé, on peut imaginer que s'il n'est qu'augmenté physiquement ou en partie intellectuellement, l'être humain il sera le même que maintenant, dans le fond, sur le fond. Donc on peut imaginer un peu une discussion qui serait la stricte équivalente de celle qui était aux États-Unis dans les années 50 quand arrivait le nouveau réfrigérateur Philco. Donc un réfrigérateur transparent, donc tout le monde venait voir le Philco, on appelait les voisins pour qu'ils voient le Philco, jusqu'à ce que les Jones qui habitent à côté aient le nouveau réfrigérateur Philco. Et donc, on en arriverait à une modernité dans les moyens, mais une espèce de médiocrité des buts, et, parce que ça ne changerait pas, quoi. Tu as vu, l'œil du voisin, il est mieux que le tien. Et il y a du chemin à faire avant cette fameuse conscience collective qu'on nous promet.
Oui, enfin, on joue sur le désir, quoi. Alors, bon, je cherchais l'idée suivante, c'est-à-dire que on nous vend toujours le désir. Est-ce que on peut arriver très loin à une séparation de l'humanité en plusieurs branches à ce moment-là, un dimorphisme, où nous aurions une humanité, disons, naturelle, une humanité qui serait évoluée, qui serait supérieure à l'autre. Bah, bon, ça, il y a quelques fantasmes de science-fiction là-dedans.
Non, ce sont des scénarios qui sont prévus, enfin, qui théoriquement sont déjà formulés. Il y aurait une espèce de conscience collective avec échange d'informations et des individus, la notion de conscience individuelle. Mais effectivement, ça entraînerait... Des différences fondamentales. D'autant qu'on peut imaginer que l'une vivrait en ayant quand même besoin de l'autre. Parce que si vous êtes une conscience collective, il vous manquerait l'information que vous donne le vécu individuel. Donc on peut imaginer deux types d'humanité. Ce serait d'ailleurs pas la première fois que des humanités coexistent.
Hein. Il y a déjà plusieurs types d'humanité, puisque... je veux dire, si on parle des pygmées, par exemple, ou des Indiens en Amazonie qui vivent en autarcie, à mon sens, ils se sont pas augmentés. On parle pas de transhumanisme chez eux. Et en fait, les seuls qui vont se sauver de cette planète, ce sera eux qui vivront en autosuffisance. Ils vivent déjà en autosuffisance. Ils n'auront pas besoin de nous pour les sauver. Nous, on sera dans la panade. Donc il y a déjà des humanités différentes. Et nous, on est tous augmentés avec nos téléphones et compagnie. Et où est-ce qu'on va avec tout ça? Où est-ce qu'on va?
Est-ce que ça donne une humanité beaucoup plus fragile?
Oui, là, c'est des concepts un peu philosophiques qui me dépassent. Oui, effectivement, je pense. Mais moi, je trouve quand même un côté, je ne veux pas être totalement négatif, il y a un côté sympathique dans le transhumanisme, c'est ce côté justement... que le darwinisme pur n'est pas une fatalité. Alors pour ceux qui ont lu un peu, si on veut être très très négatif et totalement anti-religieux, c'est la vision de Richard Dawkins, qui est un très très grand évolutionniste anglais. En gros, il dit que l'être humain, c'est un vecteur à transporter des gènes. Donc en fait, on est contaminé, et c'est, on peut vraiment réfléchir, c'est vraiment loin d'être idiot, hein. Il a écrit ça dans Le Gène égoïste. Et en fait, la forme vraiment prédominante, c'est l'ADN, hein. Et l'ADN a trouvé l'être humain et la reproduction sexuée pour se transmettre. Qu'est-ce qui va rester de nous dans des millions d'années, si on a des enfants et des enfants et des enfants? C'est notre ADN qui aura été perpétré et qui sera différent à travers quelques mutations, mais lui sera toujours là, puisqu'il sera transmis de génération. Et ça, si jamais il n'y a pas une guerre ou des problèmes de ressources, dans des millions d'années, on peut imaginer que la reproduction continue et que l'ADN soit toujours là, et nous, on sera mort. Donc on est un sac, une vision un peu très non anthropomorphique de voir l'homme, pour effectivement reproduire de l'ADN. Donc se dire que ça, c'est pas très cool comme vision quand même de la vie, et te dire, on peut un peu détourner le chemin et te dire, on va pas subir ce totalitarisme de l'ADN, et on va essayer un peu d'influencer notre vie en changeant effectivement ces programmes biologiques qui sont pas très intellectuellement peut-être satisfaisants, mais dont on peut vraiment comprendre le sens biologique. Ça, je trouve que c'est à discuter, mais je serais d'avis de ce que disait BFDM tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a déjà beaucoup de choses à augmenter sans vouloir augmenter les gens qui sont aujourd'hui à peu près normaux, quoi. Et c'est vrai que là, on est en train... Et je vois vraiment ça comme étant encore un élément de différenciation de la population, et donc assez mauvais pour l'humanité, avant d'essayer effectivement d'accepter... Aujourd'hui, on n'accepte pas le handicap en France, et dans plein de pays, ou mal. Il suffit d'aller regarder des rampes pour faire passer des fauteuils. Je ne sais pas comment c'est fait ici, j'espère que c'est bien, mais je n'ai pas regardé. Et donc, et là, évidemment, il y a un progrès majeur à faire là-dedans, et c'est tout simplement apporter des prothèses un peu, etc. Il n'y a pas d'énormes programmes pour changer ça. Donc il y a plein de pathologies de lesquelles on ne fait rien, et on va vouloir augmenter quelqu'un qui court déjà un peu pour courir un peu plus vite. C'est quand même un peu une vision quand même pas super de l'humanité et de la vie qu'on devrait avoir et de la population.
Il y a une vision de l'efficience, peut-être. dans la mesure où on pense que la nature est imparfaite, elle commet parfois des erreurs, hein, tout le monde n'est pas égal finalement de ce point de vue-là, et on pense que notre savoir nous permettra à chaque fois d'améliorer, de réparer, et que si le potentiel humain n'est pas entièrement exprimé, eh ben, il suffit de s'y mettre pour arriver à le réaliser. On est dans vraiment une idée de perfection.
Mais encore une fois, je connais pas grand-chose, c'est juste, je vous le dis sincèrement comme je le pense, mais cette idée d'efficience, elle n'est pas éminemment capitaliste? Elle n'est pas éminemment de vouloir produire quelque chose? Est-ce que la vie de l'être humain, c'est de produire quelque chose, systématiquement? C'est une vision très particulière de vouloir produire. Pourquoi on ne pourrait pas imaginer une société contemplative où il y a des ressources et que tout le monde s'appénare? Enfin, c'est vraiment extrêmement dirigé, cette façon de voir cette efficience, vers la production. Et encore une fois, je ne suis ni communiste, ni marxiste, ni quoi que ce soit, mais je vois ça comme étant vraiment éminemment capitaliste dans le concept.
Elle est capitaliste et elle est fondamentalement religieuse, parce que l'université du transhumanisme, je crois que c'est son nom à Silicon Valley, ou Nick Bostrom par exemple, sont des gens qui sont farcis de lectures mal digérées, de la gnose, des pensées orientales, etc. Et qui font que, oui, il y a cette idée que la nature est mal faite, Dieu n'a pas eu le temps de faire les finitions, et donc on arrive, mais c'est quand même assez malsain, et puis j'ai du mal à sortir de ce point qui est que, par exemple, pourquoi s'extasier, s'esbaudir d'avoir une vie qui augmenterait de 50 ans, alors que actuellement, à cette heure-ci, là où on parle, il y a des gens qui seraient heureux d'avoir une augmentation de vie d'une semaine.
Eux proposeraient en même temps de soigner la personne et de le prolonger un petit peu. Mais c'est vrai, c'est...
Ça ne se fait pas.
Oui.
Il y a les faits, il y a ce qu'on dit. Or, dans les faits, toute cette discussion, elle porte sur l'oubli qui est actuellement, à cette heure-ci, des millions d'êtres humains qui meurent. Et ça peut paraître naïf, mais on ne peut pas en démordre de ça.
À considérer une humanité normale, l'humanisme, c'est déjà une augmentation du savoir. Alors, est-ce qu'il y a encore de l'humanisme dans le transhumain, puisque l'augmentation du savoir peut supposer aussi l'augmentation de toutes nos possibilités.
Dans l'humanisme, il y avait une notion d'évolution morale. Est-ce que le transhumain est une évolution physique? La morale n'est pas prévue.
Oui, uniquement technocentriste. Et qu'est-ce qu'on peut imaginer donc à partir de là sur les dérives? Comment ça commence d'ailleurs? Je sais pas, on pourrait peut-être parler de tests génomiques ou de 23andMe qui permet déjà de... on offre aussi aux gens de connaître, disons, leur génome, et à ce moment-là, les gens sont intéressés de savoir qu'est-ce qu'ils ont comme ascendance, et ce sont des portes d'entrée justement après pour quelques dérives... transhumaine.
Moi, je suis pas sûr que ça. Enfin, encore une fois, je suis pas sûr que ça soit une vision de société. Le transhumanisme, c'est pour moi clairement une vision d'individus qui ont envie de vivre longtemps pour profiter de richesses, de quelque chose. Bon, sinon, franchement, encore une fois, j'ai du mal à imaginer dans la société d'aujourd'hui vouloir vivre très longtemps, très longtemps, très longtemps. Si la société n'évolue pas, je suis pas sûr que ça intéresse beaucoup de gens. Donc, il faut être capable aussi de conceptualiser dans une société qui serait effectivement avec des ressources très très différentes de ce qu'elle est aujourd'hui. Mais le transhumanisme, ça commence par par le tridombrion. Si enfin on est là et là ça touche le zénith. Mais là ça serait une vision de société. On veut que des enfants très intelligents. Mais est-ce que on a besoin que des enfants très intelligents pour faire une société humaniste? Ben non, évidemment non. Il y a aucun rapport entre le fait que tout le monde soit intelligent et qu'une société puisse être équilibrée. Donc en fait, c'est une vision. Enfin, le transhumanisme, c'est éminemment une vision élitiste quand même. Hein. Encore une fois, si on revient sur la notion de productivité, que ce soit un super sportif, un mec qui va faire des sudoku en deux secondes. Enfin, voilà, c'est vraiment ça. C'est la productivité intellectuelle, physique, matérielle. Comme vous parliez tout à l'heure de l'ouvrier qui va visser des boulons 10 fois plus que l'autre. Là, c'est comme Charlot. Là, c'est pas un projet de société. C'est un projet individuel dans le cadre de ce que vous avez discuté. C'est la société Calico, qui est une fusion, je crois, de Google et de je sais pas quoi, c'est tuer la mort. Et ils travaillent. C'est marrant, allez voir le site, hein, Calico, CALICO. D'ailleurs, il y a très très peu de publicité. Alors, ils ont mis tous des scientifiques de top niveau. Donc, c'est Arthur Levinson, qui doit être le chef scientific officer, qui doit être un Nobel, etc. Donc, c'est un Californien. Ils ont dû lui filer des millions de dollars par mois pour qu'il fasse ça. Il y a très peu d'informations. Et ils travaillent sur un rat qui est assez marrant. C'est un rat très très moche avec deux dents. Ça s'appelle le rat taupe nu, en trois mots. Un rat RAT taupe, TAUPE, nu et nu, qui est un rat qui vit très longtemps. Et donc, ils le séquencent massivement pour essayer de trouver déjà la longévité. C'est-à-dire que bon, on n'est pas obligé de. On pourrait déjà. Il y a des espèces qui vivent plus longtemps que les autres. On ne sait pas pourquoi. Ou on pourrait prendre des gens qui sont 119 ou 120. Et il y a probablement des raisons génétiques. Et donc, ils séquencent du rat taupe nu en quantité pour essayer de trouver des gènes de longévité. Donc entre les tris génétiques, on peut faire des embryons et ces trucs-là, on pourrait déjà aller vers une société bah, effectivement, qui déjà limite la diversité de certains traits génétiques, parce qu'on a trié les embryons en amont, et par exemple en favorisant, et ça on suffit de retourner à la race aryenne, hein, pour imaginer qu'on pourrait sélectionner les yeux bleus, la taille, c'est pas très compliqué de sélectionner la taille et les yeux bleus. Hein, les éleveurs ont fait ça sans avoir besoin de génétique, uniquement en regardant des vaches, hein, la hauteur au garrot, la taille des fesses, et une fois qu'ils ont compris comment ça marchait, sans faire de génétique, ils avaient des vaches qui donnaient du lait avec des grosses fesses, et comme ça. Donc ça c'est de la sélection domestique, on est capable de le faire. Hein. Donc ça commence par ça déjà, donc sans même penser, donc on peut faire beaucoup de mal sans même se faire des choses prothétiques très complexes.
Il me semble que Julian Huxley, déjà, donc le frère d'Aldous, qui était le premier secrétaire de l'UNESCO, prônait une sorte d'eugénisme modéré, dans la mesure où l'on élimine toutes les imperfections. Et donc il y a, c'est vrai peut-être dans le gène du transhumain, une question d'eugénisme. Il y a un tri, non ?
Comme on l'a dit souvent ici, tout le monde est d'accord, il y a déjà un tri social, un tri financier. Hein. On entend très peu parler de transhumanisme dans les bidonvilles, hein. C'est ce que j'ai dit depuis tout à l'heure.
Quand on parle d'un trait qu'on veut éliminer, encore une fois, c'est le biologiste qui parle, le trait, il est délétère à un moment donné. Je veux dire, aujourd'hui, on a du diabète parce que pendant des millions d'années, ou des milliers d'années, parce que, en fait, les gènes qui aujourd'hui font qu'on a du diabète étaient extrêmement favorables dans un environnement donné où les ressources n'étaient pas les mêmes. Et il a permis à des tas de gens de survivre. Et cette même variation génétique qui était extrêmement bénéfique il y a quelques centaines de milliers d'années devient aujourd'hui très néfaste parce qu'on est dans un monde d'abondance. Et donc, vous voyez que quelque part, je crois que j'avais une question tout à l'heure de quelqu'un, le monsieur qui est en face de moi, là, sur la stagnation ou l'élimination des choses dont on ne sait pas ce qu'elles pourraient devenir. C'est vrai qu'il faut aussi regarder une mutation à un moment donné n'a d'intérêt qu'effectivement dans le contexte environnemental dans lequel on la place aujourd'hui. Et il y a plein d'exemples aujourd'hui, il y a plein de maladies qu'on a aujourd'hui qui étaient des mutations extrêmement bénéfiques avant. Il y a deux, trois exemples connus. Il y a probablement la prédisposition à l'asthme. Il y a beaucoup d'enfants asthmatiques aujourd'hui parce que ce sont des mutations qui, avant, protégeaient contre les infections. La drépanocytose, la fameuse... quand votre globule rouge, il est plus rond et qu'il a une forme un peu de faucille et qu'en fait, il bloque un petit peu éventuellement les vaisseaux et qui, comme ça, il contrarie la pénétration du vecteur qui fait la malaria. Effectivement, c'est parce que c'est ce qu'on appelle un polymorphisme balancé. Ça crée la drépanocytose parce que, ben, malgré tout, cette forme d'hématie n'est pas terrible, mais ça protège contre la malaria. Et donc, dans les zones endémiques de malaria, les gens n'ont pas la malaria parce qu'ils ont de la drépanocytose. Mais quand il n'y a plus de malaria, vous avez juste la drépanocytose. Donc, vous changez le contexte et vous changez l'impact d'une mutation. Donc, c'est pour ça qu'on parlait d'éradiquer qui quelque chose semble à un moment donné délétère, dans un autre contexte, peut être favorable. Donc, c'est vrai qu'effectivement, si on fait ce filtre-là, de dire c'est délétère aujourd'hui et qu'on l'élimine, on peut très bien se retrouver demain dans un contexte environnemental totalement différent où ça aurait pu être bénéfique et ça aurait pu être en fait un moyen d'évolution de l'homme. C'est peut-être une caricature, mais pas si loin que ça.
Oui, comme quoi certains des fantasmes à ce moment-là du transhumanisme ne sont peut-être pas si près d'arriver. Je crois qu'il y a les questions épigénétiques aussi qui font que ce n'est pas seulement une fonction, un gène, et puis on joue à partir de là. Je crois qu'on n'y est pas encore finalement. Quel avenir on peut dessiner ? Je repose la question avec ça.
Je ne suis pas certain que ce soit une question d'avenir, mais une question de présent. Parce qu'il y a un mot qu'on n'a pas encore prononcé, qui est la notion de liberté. Et un discours sur un éventuel futur du transhumain, ça permet en fait de diriger ou de déterminer le présent. Bon, Il y a un déplacement dans le transhumanisme sur la notion de liberté, la notion de liberté individuelle notamment. Bon, ici, dans cette assistance, ici, qui a choisi son corps ? Quelqu'un ? Personne. Bon. Donc vous êtes né beau, nous sommes nés moches, nous sommes nés en bonne santé, nous sommes nés malades. Il y a des gens qui sont nés moches, malades, ceux-là n'ont pas de bol. Tout ça outrepasse la liberté. Vous avez votre corps et vous faites avec. Un point, c'est tout, on est tous comme ça. Bon. Là, le transhumanisme dit ce qui relève de l'absence de liberté, c'est-à-dire le proprement naturel et la naissance, on s'en occupe, on va choisir pour vous, mais finalement, vous serez mieux. Tandis que les véritables libertés individuelles, celles de 2018, qui consistent, par exemple, si vous voulez, à fumer 4 paquets de clopes par jour et à vous bourrer whisky, et ça vous regarde, celles-ci sont remises en question. Et moi, je vois un gros problème, en fait, non pas dans un avenir indéterminé sur la notion de liberté, mais sur une redéfinition de la liberté aujourd'hui, qui est que, laisse tomber, tu ne peux pas savoir, toi, quel est ton bien, tu as droit à la liberté, mais je vais m'en occuper parce que tu n'es pas assez apte à savoir de quoi tu es libre et qu'est-ce qui est bien pour toi. Et en fait, c'est une redéfinition de la liberté présente que nous impose le transhumanisme à venir.
Le transhumanisme dit qu'il a la liberté de se transformer du moment qu'il peut le faire, sans vraiment non plus l'imposer à l'autre individu.
Mais il ne le dit jamais en écrasant sa cigarette dans un... Ça, c'est... On peut parler tout ce qu'on veut. C'est vrai qu'il y a déjà un choix éthique, voire même un choix moral, de ce que doit être l'humanité. Et c'est très con, mais le transhumanisme, je suis prêt à parier n'importe quoi, qu'il élimine les clopes, l'alcool, une certaine forme de sexualité, etc. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus la liberté de toute l'humanité, mais une certaine lecture de la liberté.
Oui, moi je pense que ceux qui prônent ce transhumanisme débridé et jusqu'au boutiste ne vivent pas le réel en fait. Ils sont pas ici et maintenant, ils sont dans l'ailleurs et dans le demain. Et en fait, je crois que c'est Damasio qui dit qu'ils n'habitent pas leur corps. Et c'est ce qui nous emmène aussi, encore une fois, dans le mur, en fait. C'est de ne pas vivre le réel, de penser que demain, ça sera mieux, demain, de remettre, ou de penser que le virtuel va nous sauver, que le transhumanisme va nous sauver. Et voilà, moi, c'est...
Encore une fois, moi, je n'ai pas tenu, mais je pense que c'est fondamentalement un projet de quelques personnes qui sont probablement de brillants intellectuels, qui ont la conviction qu'ils sont tellement brillants que s'ils meurent, c'est une perte pour le monde. Ils sont probablement aussi argentés, et que s'ils pouvaient vivre quelques centaines d'années en plus, ils pourraient vraiment apporter des chasses à la société, et après, ils peuvent faire rêver le monde en disant qu'on va tous être augmentés, etc. Mais ça, c'est vraiment, mais c'est extrêmement illusoire, et il y a tellement de repères, on a parlé des ressources, des territoires, du climat, etc., pour montrer que tout le monde dépasse 100 ans avec des enfants, sans contrôle des naissances, sans, je suis absolument d'accord, sans contrôle total du comportement. Parce qu'effectivement, c'est vraiment une société donc normalisée, aseptisée. Et aujourd'hui, effectivement, c'est le rêve de certains qui n'habitent pas franchement leur corps, justement, qui n'aimeraient pas l'habiter parce qu'ils aimeraient le dépasser, parce qu'ils ont l'absolue croyance qu'ils ont des moyens, voilà, et ils pourraient faire des tas de choses, ce qui est peut-être vrai. Mais ce sont des projets personnels, et après...
qu'on n'impose pas aux autres. Alors, tout n'est pas mauvais dedans, c'est vrai, mais donc peut-être faut-il imposer un cadre éthique. Est-ce que ça se met en place ? Alors, il existe déjà pas mal de lois sur la bioéthique, par exemple, mais elles sont souvent combattues par les avancées. On est en train de les redéfinir. On ne va pas étudier telle chose. Puis finalement, si, on va s'y mettre quand même. Il manque un cadre éthique peut-être un peu fort, non ?
Le problème, c'est que le cadre éthique tel qu'on le connaît, c'est un cadre éthique binaire, bien mal. Or, le transhumanisme, il se situe justement par-delà, pour reprendre la fameuse « le bien et le mal », et dès lors que dans les futurs les plus éloignés, mais voulus, On dépasse les notions de conscience individuelle. Le bien et le mal, tel qu'on le connaît, n'existeront plus. Donc, quel cadre éthique ? Si c'est le cadre éthique du transhumanisme, ben bonjour. Si c'est le cadre éthique hors transhumanisme, ça ne marche pas, puisque le transhumanisme reconnaît qu'il veut y échapper. Ça ne marche pas.
Effectivement. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Je vois que l'heure avance.
Oui. Oui, j'aimais beaucoup l'idée du corps vecteur de l'ADN et j'aimerais vous soumettre un petit scénario de science-fiction. Voilà, nous sommes des ADN améliorés et on veut coloniser l'espace. Est-ce qu'on n'est pas obligé de passer par le transhumanisme ?
Pour résister aux rayons cosmiques, par exemple.
On vient de l'espace, donc on est des poussières d'étoiles, donc on pourrait juste y retourner. Donc, je ne sais pas quoi réponse à cette question, mais il y a probablement des traces de vie, hein, enfin en tout cas il y a probablement des traces de vie sur certaines planètes, et probablement si ce sont des choses extrêmement primaires, d'origine bactérienne ou ce genre de truc-là, donc encore une fois ça serait un retour. C'est parce que c'est l'espace, hein, si c'est une autre planète que la Terre, si l'espace c'est autre chose que ce qu'on a là, c'est probable qu'on ait des choses qui ressemblent. Après, on ne vous entend pas, je suis désolé.
Puis quelle est la séduction du projet
Est-ce que c'est pas l'idée des transhumanistes de se dire on est tellement bien qu'il faut qu'on aille polliniser l'espace et que pour ce faire, il faut absolument dépasser les capacités du corps pour pouvoir vivre beaucoup plus longtemps, pour faire ces distances incommensurables, etc. Est-ce que ce n'est pas finalement leur but mégalomaniaque et un peu spirituel ?
L'exploration de l'espace est inscrite dans les projets transhumanistes. Ils en parlent. Donc il y a bien ce projet d'aller ailleurs et à ce moment-là de se transformer pour pouvoir s'adapter à un nouvel environnement, par exemple. Enfin bon, on connaît nombre de récits de science-fiction. Le premier, même, c'est Demain les chiens, où l'humanité se transforme pour vivre sur Jupiter. Il y a Home Plus de Frédéric Pohl, où le pauvre humain est transformé pour aller vivre sur cet environnement. Pourra peut-être y résister, mais du coup, il n'a plus rien d'humain et il se rend compte en même temps de ce qu'il perd.
Juste un truc, hein, très simple. On va se transformer pour coloniser l'espace. Ok pour lire un bouquin, ok pour voir un film, mais là, à cette heure-ci, si je vous dis « on va se transformer pour coloniser l'espace », ça vous dit ? Est-ce que ça parle à quelqu'un ? Est-ce que ça intéresse quelqu'un ? On dirait des cow-boys et des indiens dans un jardin à 16 heures. Après goûter, on va être les indiens.
Oui.
Bonjour. Vous avez beaucoup parlé de cette idée d'inflation de puissance de l'humanisme, du transhumanisme, et semblez penser globalement que on ne peut pas questionner moralement ou de manière, d'un point de vue de société, ce transhumanisme. Et pourtant, il y a des pratiques comme la chirurgie esthétique en Corée, la scarification qui est inscrite sur le fascicule ou même le tatouage. Qui ont, ou même la transidentité, comme exemple très parlant aujourd'hui. Donc ce genre de pratiques qui ont une sorte de recherche d'unité dans un groupe social, ou même une unité avec soi-même, puisque une personne qui naît homme et qui se sent femme n'est pas vraiment complètement humain avant. Est-ce que ce genre de pratiques, qui ne sont pas dans cette optique d'optimisation, rentrent dans votre conception du transhumanisme, puisque vous n'en avez pas beaucoup parlé ?
Oui, vous avez raison, oui, mais on n'en a pas parlé. Oui, c'est le début du transhumanisme. De toute façon, rien que de prendre des anxiolytiques ou un sédatif, c'est déjà s'augmenter. Donc, ça commence dès l'aube de l'humanité, je pense qu'on s'est augmenté. Après, il y a des limites, peut-être. Notre monde est limité, le transhumanisme doit l'être aussi, sinon c'est absurde.
La frontière est entre la réparation et l'amélioration.
On peut réparer.
Il y a une autre frontière, une autre chose dont on n'a pas parlé, c'est la notion de symbole, de symbolique. Il n'y a pas de symbole dans le transhumanisme. Dans, ce que vous, dans les pratiques que vous évoquiez, et dont il y aura des tables rondes qui en parleront, comme le, les scarifications, les tatouages, il y a une notion qui peut être spirituelle, même pour un individu. Il y a un très beau livre sur l'automutilation qui est paru il y a un an ou deux, et une notion, une valeur symbolique. J'en vois pas dans le transhumanisme. Je vois une valeur idéologique, pas une valeur symbolique.
Alors moi j'aurais une question s'il y a un juriste dans la salle, parce que, et encore une fois je devrais le savoir, mais il faudrait que je trouve ce texte de loi. En fait, il semblerait que notre corps ne nous appartienne pas vraiment au devant de la loi. Donc le transhumanisme peut suggérer qu'on modifie notre corps, et ça c'est probablement au niveau juridique interdit, jusqu'à certains niveaux. Et je pense que notre corps ne nous appartient pas au devant de la loi pour éviter que ça soit, on puisse le vendre, comme la vente d'organes, etc. Donc je suis désolé de frustrer certains, mais votre corps ne vous appartient pas, donc, parce qu'effectivement vous ne pouvez pas le prendre. Donc le transhumanisme va poser aussi des questions comme ça, parce qu'à partir du moment où il ne nous appartient pas, on ne doit pas pouvoir le modifier de façon n'importe comment sans que ça pose des vraies questions au niveau même juridique.
D'où dans les textes, un des premiers items, c'est de dire qu'on a la liberté, on veut avoir la liberté de se transformer.
Bonjour. Vous avez commencé par l'exemple de gens voilà, qui avaient été amputés des jambes, par exemple, et à qui on mettait des prothèses pour pouvoir faire du sport. Et ça, je pense que c'est plutôt vu comme un aspect positif du transhumanisme d'abord. Mais par rapport à ce que vous disiez sur l'acceptation du handicap, est-ce que le problème, c'est justement qu'en fait, on chercherait à rendre les gens handicapés, en fait, entre guillemets, à les rendre à la norme des gens en bonne santé. Donc est-ce que le problème, c'est ça, c'est qu'on veuille mettre tout le monde à cette norme de la bonne santé? Est-ce que l'inverse, ce ne serait pas justement d'adapter la société à toutes ces tous les handicaps et toutes les modifications?
Je pense que je suis d'accord avec ce que vous dites, mais pour moi, ce n'est pas du tout le transhumanisme. Mais vous avez raison, je pense que l'idée, ce n'est pas du tout de faire que les handicapés deviennent, entre guillemets, normaux. Je ne sais pas ce que ça veut dire, normalité, encore une fois. Hein. Pensez que c'est une distribution, et c'est ce qu'on appelle une distribution normale. Tout le monde dans la distribution est normal. Ils sont juste à des endroits différents de la distribution. Les handicapés, il faut juste leur fournir de quoi s'insérer dans la société et qu'ils aient les mêmes droits et capacités que tout le monde. Il ne faut pas essayer de les mettre au milieu de la courbe, etc. Il faut juste les accepter, leur donner les mêmes possibilités. Et en plus, si on peut, ceux qui sont malades, les soigner, etc., évidemment le faire. Mais je suis entièrement... Mais pas d'essayer de pointer vers une normalité qui me semble être justement ce vers quoi, vers le transhumanisme. Aseptisé, tout le monde pareil, comportement identique, tout le monde un enfant et pas plus comme en Chine, parce que sinon la société explose et après il faut aller coloniser Mars, parce que entre le soleil qui va péter dans 2 milliards d'années et les ressources, on ne pourra plus rester là, etc. etc. quoi.
Je pense qu'effectivement le transhumanisme, les Inuits sont arrivés dans le pôle Nord et ont évolué pour pouvoir vivre et dans cet environnement. Il va falloir que nous-mêmes nous adaptions à d'autres environnements, soit sous les océans, soit dans l'espace pour aller chercher des ressources, parce qu'on est 8 milliards, et bientôt on en sera 20, et 30, 40, et notre planète Terre ne pourra pas subsistir. Et nous sommes des colonialistes depuis la nuit des temps. Donc à un moment, il va falloir aller ailleurs. Et le transhumanisme n'est pas fait que pour les bourgeois et les richards, mais aussi fait pour aller voir ailleurs, parce qu'on n'a pas le choix. C'est une forme d'évolution. Nous évoluons, Darwin l'a dit, continuons à évoluer. Sauf qu'il maintenant, peut-être qu'il faut aller un peu plus vite, parce qu'on n'a pas 50, 10, 15, 20 000 ans pour évoluer dans la direction qui va bien. La planète Terre n'attendra pas.
Je ne suis pas sûr qu'on ait besoin du transhumanisme et d'augmenter l'homme pour lui permettre de vivre sur d'autres planètes. On peut faire des biotopes sur d'autres planètes et que l'homme d'aujourd'hui vive sur une autre planète et on organise la planète pour. Je pense qu'il y a plein de scénarios qu'on n'a pas tous identifiés, mais le problème que vous posez est un vrai problème. Hein. Mais encore une fois, l'ADN est intelligent, mais il s'est développé dans l'environnement dans lequel il est. L'ADN qu'on a aujourd'hui, c'est pas qu'il y a d'autres planètes et c'est pas effectivement que le soleil va péter dans 2 milliards d'années et que si jamais les gens font rien, malheureusement, il va effectivement pu se propager. Et donc il y a un risque pour l'ADN aussi. Hein, il suffit tout simplement de ne pas faire d'enfants. Hein, si vous voulez arrêter la dictature de l'ADN, vous ne procréez pas. Hein, et vous arrêtez votre lignée. Hein, et ça va assez vite. Hein, donc sur ce concept-là, encore une fois, il y a effectivement la destinée de l'homme, c'est peut-être... Vous savez, même sans parler de la Terre, hein, il suffit d'imaginer les perspectives du GIEC et de l'augmentation de la température et du climat pour imaginer qu'il y ait des choses beaucoup plus rapides qui arrivent. Donc, et ça, on ne sera pas transhumain avant d'avoir 2 degrés de température de plus dans les dents. Hein, donc, il y a effectivement... Donc, on revient sur le point. Il y a des choses extrêmement importantes aujourd'hui à prendre en compte qui fait qu'effectivement, on doit modifier nos comportements avant de modifier notre apparence. Hein, et que modifier nos comportements par rapport, et encore une fois, je ne veux pas faire du prosélytisme, hein, nos déchets, nos effets de serre, etc. C'est bien d'être transhumain, mais si c'est pour péter la planète, et c'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure sur le remplacement d'organes, si on finit par avoir un comportement en disant c'est pas grave, on est transhumain, on est plus fort que tout le monde, et on fait de planète en planète en planète, ok, c'est pas non plus quelque chose qui est jouable longtemps. On peut aussi jouer sur les comportements plutôt que les modifications.
Oui, pardon. Tout à l'heure, vous faisiez allusion au handicap et donc que le transhumanisme permettrait pour des personnes justement ayant un handicap de compenser et d'aller à peu près sur une norme, se rapprocher de, je dis bien entre guillemets, la norme. Mais est-ce que le fait de devenir transhumaniste ne renforce pas encore plus cette différence ? Pas si j'arrivais à me faire comprendre. C'est-à-dire que de passer du handicap, essayer d'être entre guillemets normal, mais en accédant au transhumanisme, finalement, il y a toujours cette notion de décalage.
Ben, il y aura, c'est ce qu'on discute tout à l'heure. Enfin, je sais pas si je comprends, mais effectivement, c'est tout à l'heure. Claude nous parlait de deux humanités. On aura les humains normaux biologiques et les humains normaux augmentés. Donc oui, il y aura des différences parce qu'on verra bien que lui, il a une prothèse et qu'il court. Et l'autre, alors, il court avec ses deux pieds. Mais oui, il y aura toujours une différence, ça c'est clair. Mais je ne suis pas sûr d'avoir forcément compris votre question. Mais en tout cas, oui, la différence, elle se fera. On aura les mêmes performances, effectivement, mais pas pour les mêmes raisons. Mais voilà.
Bon, bah, je crois qu'on a déjà bien entamé le débat, mais on est obligé de s'arrêter aussi. Et de laisser la place au suivant, ce sera Estelle Blanquet avec Marc-André Sellos, l'homme qui parle aux microbes. Vous pouvez aussi compléter le débat en allant voir Anatomie 2 à la salle d'une, où le désir de guérir un frère malade amène à se poser justement ce type de questions morales. Et vous retrouvez aussi nos auteurs en dédicace à la librairie.